Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
C'est le 30 septembre que l'on connaîtra la date officielle de la canonisation de Jean XXIII et de Jean-Paul II, mais l'on sait déjà qu'elle aura lieu en 2014. Jean XXIII et Jean-Paul II, deux papes qui ont vécu le concile il y a 50 ans. Le cardinal Poupard nous a raconté ses souvenirs, rediffusion en fin d'émission. Des milliers de Kurdes syriens fuyant la guerre et les privations cherchent refuge en Irak, un pays lui-même en proie à la violence. En Jordanie, les réfugiés syriens représenteront 40% de la population en 2014. Coup de projecteur sur une tragédie qui n'en finit pas dès le début de ce magazine. Nous parlerons également de la Malaisie où le gouvernement veut réserver l'usage du mot Allah aux fidèles de l'islam. Le ministre de l'Intérieur a invité les musulmans à unir leurs forces par-delà leurs clivages et leurs intérêts particuliers pour défendre, dit-il, un droit absolu de l'islam. Une décision de justice est attendue cette semaine. Alors que tous les regards sont tournés vers l'Égypte, des milliers de Kurdes syriens continuent de fuir vers l'Irak. Ils viennent s'ajouter aux quelques 150 000 réfugiés déjà présents sur le territoire irakien, lui-même en plein chaos. L'évêque auxiliaire chaldéen de Bagdad a indiqué que les chrétiens étaient en première ligne pour leur porter secours. Les besoins sont énormes, a signalé Mgr Wardouni, qui est également le président de Caritas Irak. En Jordanie, le nombre des réfugiés syriens dépasse désormais les 600 000. Le camp de Za'atari, situé à une vingtaine de kilomètres de la frontière syrienne, symbolise à lui seul cette effrayante réalité. Marco Rotuno est depuis 3 ans chef de mission pour une ONG espagnole. Les programmes de développement qu'il s'occupait de mettre en place auprès de la population jordanienne se sont vite transformés en actions d'urgence pour les réfugiés syriens, principalement justement dans le camp de Za'atari dont il sillonne une fois par semaine les ruelles poussiéreuses. Manuela Afigi.
Les tentes du HCR s'étendent à perte de vue. Le camp de Za'atari se déploie au milieu du désert jordanien sous un soleil brûlant. Za'atari, c'est à la fois un camp, une ville, un microcosme qui possède son organisation propre.
La zone la plus ancienne du camp est une sorte d'agglomération de tentes fermées entre elles, comme pour former une petite communauté où il est pratiquement impossible d'entrer. Vous avez une zone surpeuplée où il y a de nombreux problèmes d'hygiène. Pour avoir un peu d'intimité, ils construisent des toilettes à l'intérieur même de leur tente en cédant des toilettes publiques du camp qu'ils démontent pièce par pièce. Ces toilettes publiques, du coup, ne fonctionnent plus et ont besoin d'être réparées une fois par semaine. Le point positif, c'est le climat sec qui empêche la prolifération d'épidémies. Mais nous restons toujours en alerte parce qu'il y a encore des cas de diarrhée aiguë en plus des épidémies d'hépatite A et de choléra que nous avons eues.
L'hépatite A et le choléra, évidemment.
Surpeuplement, promiscuité, les conditions de vie sont intenables. Les distributions de nourriture et de vêtements tournent vite à l'émeute et les quelques 50 policiers jordaniens préposés à la sécurité du camp sont très vite dépassés. Les humanitaires subissent les foudres d'une population aux abois. Attaques et menaces ne sont pas rares. Le travail des ONG n'en est que plus difficile.
Ils sont fermés en petites communautés, toujours sur le qui-vive, très soupçonneux, même envers les ONG. Notre but est de réussir à gagner leur confiance parce qu'ils n'en ont pas. Ils ont cette vision de l'Occident qui n'aide pas à la rébellion. L'aide que nous leur apportons est vue comme partie intégrante d'un système qui veut les maintenir dans le camp. Certains sont ici depuis 1 an et nous disent que si la situation perdure, c'est parce que nous ne faisons rien.
70% de la population de Za'atari sont des femmes et des enfants. Ils arrivent principalement du sud de la Syrie, là où tout a commencé.
Ils sont presque tous du camp des rebelles. Les maris sont restés combattre en Syrie. Les familles qui arrivent sont donc essentiellement composées de femmes et d'enfants. Il y a beaucoup de personnes âgées qui sont arrivées ces dernières semaines. Il y a aussi des cas où les épouses laissent leurs enfants dans le camp et retournent auprès de leur mari pour leur apporter les choses dont ils ont besoin. Vous avez également des cas de recrutement, parce que vous avez des enfants, mais aussi de jeunes garçons de 13-14 ans. Et il y a des camions qui vont et viennent autour du camp. Ils les recrutent pour retourner combattre en Syrie.
recrutement pour les jeunes garçons et vente de fillettes destinées au mariage.
Sta arrivando tanta gente, non solo giordani, ma soprattutto persone del Golfo.
Il y a beaucoup de personnes, pas seulement des Jordaniens, mais surtout des gens des pays du Golfe qui viennent s'acheter des épouses syriennes. Pour se marier, on doit payer la famille de la jeune fille. Si la famille, comme c'est le cas ici, est une famille de réfugiés, la jeune fille coûtera moins cher. Vous avez donc, dans le camp de Zaatari et ailleurs, un système d'achat-vente de jeunes filles qui ont 11, 12, 13 ans. Dans beaucoup de cas, la jeune fille ne reste pas l'épouse de celui qui l'a achetée. Beaucoup de jeunes filles, après une semaine d'abus, retournent dans leur famille parce qu'elles ont été abandonnées, littéralement laissées sur le bord de la route.
Les ONG sont à pied d'œuvre et la tâche reste colossale. Mais Marco, témoin quotidien de cette réalité déconcertante, garde espoir.
Ce sont les regards qui me touchent beaucoup, ceux des personnes qui viennent d'arriver. C'est un regard qui en dit long sur leur voyage. Ils ont tout perdu, ils ont marché des kilomètres, et de l'autre côté, vous avez ces nombreux enfants qui ont encore cette énergie. Et ça, ça vous redonne de l'espoir. On peut encore faire quelque chose, tout n'est pas perdu.
La tragédie humanitaire continue et le flux de réfugiés qui s'était amoindri avec le Ramadan devrait de nouveau s'intensifier.
J'ajoute que les chrétiens des pays voisins de la Syrie redoutent par-dessus tout l'effondrement de la Syrie et une mainmise des djihadistes. Cela mettrait en danger, selon eux, tous les chrétiens du Moyen-Orient. Comme les chrétiens d'Égypte, ils demandent aux pays occidentaux d'être plus justes dans leur politique au Moyen-Orient et de ne pas faire des chrétiens les victimes de leurs intérêts. En Irak, l'occupation militaire américaine a été une catastrophe pour toute la population et surtout pour les chrétiens. Et les chrétiens de la région ont peur de voir se répéter le même scénario. Après les Syriens, les chrétiens d'Égypte, cible traditionnelle des islamistes et directement visée, on le voit bien, par les frères musulmans, ont demandé à l'Union européenne et aux États-Unis d'éviter toute ingérence, visiblement contre-productive. Selon eux, l'Occident semble avoir une vision décalée par rapport à la réalité du terrain. Dans un communiqué largement répercuté, le patriarche des Coptes catholiques, Mgr Sidrak, a averti que ce qui se passe en Égypte n'est pas une lutte politique entre factions rivales, mais une lutte de tous les Égyptiens contre le terrorisme. Selon lui, l'écrasante majorité de la population souhaite que l'Égypte soit débarrassée des frères musulmans. En Malaisie, la guerre juridique autour du terme Allah est loin d'être terminée. Cette querelle qui a fortement contribué à détériorer les relations entre chrétiens et musulmans sera une nouvelle fois examinée par la justice jeudi. Des groupes et des partis musulmans contestent aux chrétiens l'usage du terme Allah pour désigner Dieu. Ils les accusent d'appropriation indue, voire de sacrilège criminel contre l'islam, alors qu'il n'existe pas d'autre mot pour indiquer Dieu en malais, la langue parlée par 60% des chrétiens de Malaisie. C'est d'ailleurs le terme utilisé dans la Bible, les publications et les livres de prière chrétiens. C'est le mot utilisé par les chrétiens du monde arabe, Thomas Chabol.
La controverse a commencé en 2008, lorsque le ministre de l'Intérieur de l'époque avait menacé de bloquer la publication d'un journal catholique. Il s'appuyait sur une disposition gouvernementale interdisant l'usage du terme Allah de la part des non-musulmans. L'Église avait alors lancé une procédure judiciaire à l'encontre de cette disposition. En 2009, dans un climat extrêmement tendu, une décision de justice portant sur ce contentieux avait donné raison à l'Église catholique, indiquant le terme Allah comme non exclusif de l'islam. Mais cette décision n'avait pas apaisé les tensions, elle avait au contraire provoqué un déchaînement de violences antichrétiennes. Peu après, le gouvernement avait présenté un recours devant la Haute Cour. Il y a quelques semaines, l'Église catholique a présenté au tribunal une instance d'annulation du recours présenté par le gouvernement. La bataille est donc ouverte. De plus, les tensions interreligieuses se sont exacerbées le mois dernier quand le tout nouveau nonce apostolique en Malaisie, Mgr Joseph Marino, a affirmé dans une interview que la position de l'Église catholique était logique et acceptable et que la religion ne pouvait être source de discorde dans la société. Ces propos avaient suscité un tollé, certains groupes réclamant son expulsion. Le gouvernement lui-même avait invoqué le principe de non-ingérence. Les relations diplomatiques entre la Malaisie et le Saint-Siège ont été instaurées en 2011.
En Inde, un jésuite et deux religieuses qui travaillent dans une mission catholique ont été agressés, insultés et frappés il y a deux jours par un groupe de 150 personnes à la suite de la mort d'un enfant dans le centre dirigé par les religieux. Les jésuites soupçonnent les radicaux hindous d'avoir fomenté ce déchaînement de colère. La mission a été saccagée. À l'initiative de l'Église catholique, une semaine nationale pour les migrants et les réfugiés se tient jusqu'au 24 août en Australie. Or, cette année, la question des flux migratoires est au centre de la campagne pour les élections législatives qui auront lieu le 7 septembre. Depuis le 1er août, l'Australie a durci ses conditions d'accueil. Elle renvoie désormais directement chaque réfugié vers un pays voisin, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, moyennant une indemnité de dédommagement pour l'État papouasien. Cette réforme de la politique d'accueil inquiète l'ONU et certaines ONG, comme Amnesty International. Jean-François Dubost est responsable du programme Personnes déracinées pour la section française d'Amnesty. Il est interrogé par Jean-Baptiste Cocagne.
Clairement, ces deux États-là en fait, se placent en marge du droit international, compte tenu des conditions dans lesquelles les demandeurs d'asile vont être accueillis en Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans des camps qui ne sont absolument pas prévus pour accueillir les milliers de personnes qui sont destinées à arriver dans ces centres prochainement, dans des conditions sanitaires, d'hygiène et puis de santé et d'équilibre mental qui ne sont pas du tout assurées pour les demandeurs d'asile.
Quelles sont les conditions de détention précisément ?
Amnesty International, et notamment la section australienne de notre mouvement, s'était rendue en novembre 2012 sur place. Et les conditions étaient particulièrement dramatiques et alarmantes. Les personnes, le centre en fait était composé de tentes. Plusieurs hommes vivaient sous les tentes, donc sans aucune possibilité d'intimité. Les procédures étaient extrêmement longues. Et puis, du fait des températures extrêmement élevées et des fortes pluies qui arrivent selon les saisons, le camp était particulièrement noyé. Et puis, suite à l'annonce de la politique australienne, il y a eu différents mouvements de rébellion de la part des demandeurs d'asile qui se voient infliger ces mauvais traitements.
Mettre en place une politique pareille de la part de l'Australie, est-ce que c'est vraiment efficace pour décourager les candidats à l'asile ?
De l'avis de nos confrères en fait, australiens d'Amnesty International, et on le constate un peu partout ailleurs dans le monde lorsque des politiques de cette nature-là sont invoquées pour ces motifs, eh bien, ces politiques en fait, sont en total échec. Les personnes qui fuient ont besoin de fuir, et à la limite, des politiques qui leur rendent l'accès plus difficile à un refuge ou au territoire vont simplement les mettre davantage en péril ou en danger, mais ça ne réglera absolument rien le problème de leur mise en danger et de leur risque lorsqu'ils fuient, et encore moins la lutte parfois aussi invoquée contre les filières ou les réseaux permettant d'acheminer les personnes de façon irrégulière. Des mesures comme celle-là ne font qu'augmenter les problèmes auxquels font face les réfugiés.
Jean-François Dubost d'Amnesty International. J'ajoute que dans un message pour la semaine des migrants et des réfugiés, la Conférence des évêques catholiques d'Australie estime qu'il est du devoir de la communauté catholique d'élever le niveau de la discussion sur les migrants et les réfugiés en l'éloignant du débat purement économique ou lié à la sécurité nationale pour se concentrer plutôt sur la dimension éthique, sur le bien des personnes et de leurs droits inaliénables. Le respect dû aux migrants et aux réfugiés, poursuit le message, comporte de graves responsabilités. Le pape François a adressé un message de vœux à la nation hongroise à l'occasion de la fête nationale célébrée le 20 août, mémoire liturgique de Saint-Étienne. Canonisé par Grégoire VII en 1083, Saint-Étienne est le fondateur et le premier roi de Hongrie. Baptisé à l'âge de 10 ans, il a beaucoup contribué à l'évangélisation de son pays. Homme de gouvernement remarquable, il est considéré comme le père de la nation. La couronne du Saint-Roi Étienne est devenue le symbole national de l'identité hongroise. Son bras droit qui avait disparu pendant la domination turque et qui a été retrouvé à Dubrovnik quelques siècles plus tard et porté en procession le 20 août. Dans son message, le Saint-Père souhaite que le peuple hongrois trouve sans cesse dans son héritage humain et spirituel les ressources morales nécessaires pour construire un avenir de paix et de fraternité. Je vous le disais en titre, la date officielle de la canonisation de Jean XXIII et de Jean-Paul II sera annoncée le 30 septembre au cours d'un consistoire présidé par le pape François. C'est le préfet de la Congrégation pour les causes des saints qui l'a annoncé. Le cardinal Angelo Amato était à Rimini en Italie où se tient le meeting pour l'amitié entre les peuples. Dans l'avion qui le ramenait du Brésil, le Saint-Père avait déjà indiqué que cette canonisation n'était pas imminente. Le cardinal Amato a confirmé qu'elle n'aurait pas lieu fin 2013, comme on aurait pu s'y attendre, mais en 2014. Le pape François est le seul à connaître la date précise. Dans une interview à Radio Vatican, le préfet de la Congrégation pour les causes des saints a parlé de Jean XXIII comme d'un grand prophète, auteur du Concile, et de Jean-Paul II comme de celui qui l'a mis en pratique et qui l'a développé. Deux piliers de culture et de sainteté chrétienne. Le le Concile, justement, dans le cadre de nos rediffusions estivales, je vous propose de réécouter un entretien avec le cardinal français Paul Poupart, président émérite des conseils pontificaux de la culture et pour le dialogue interreligieux. Cet entretien a été réalisé en octobre dernier, à l'occasion du cinquantenaire de l'ouverture du Concile. En 1962, le cardinal Poupart était un jeune prêtre angevin, appelé à Rome 3 ans plus tôt au service de la secrétaire d'État. Interrogé par Manuela Affigi, il a accepté de nous raconter les souvenirs marquants de cet événement.
Comme j'ai une mémoire visuelle, j'ai encore en vous parlant dans les yeux, je revois, c'était une sorte de, comment dire, de la surprise, l'émerveillement, et donc un sentiment, enfin une joie extraordinaire. Si je résume d'un mot, je dirais que cette église que je professe, une sainte catholique et apostolique. Alors, elle était donc catholique, j'allais dire en droit, et elle le devenait en fait. Et ça a été le prélude à des rencontres, mille et une rencontres pendant le Concile et pendant les intercessions du Concile, avec les évêques, bien sûr, français, mais non seulement, tous ceux qui se pressaient au Centre culturel Saint-Louis-de-Funès. Nous avons cette chance unique, un centre culturel dans l'ambassade de France auprès du Saint-Siège, Saint-Louis. La salle était trop petite pour contenir tous les évêques. Les Brésiliens étaient parmi les plus fidèles, évêques d'Amérique latine, du Moyen-Orient, bien sûr, non seulement du Liban et des autres. Alors on venait écouter le père Congar, on venait écouter le père de Lubac, on venait écouter le père Danielou, on venait écouter le père Lebray, on venait écouter le père Chenu.
Donc vous étiez jeune prêtre à l'époque. Est-ce que vous preniez pleinement mesure de ce qui se passait ?
Mais écoutez, c'était pour moi tout à fait extraordinaire parce que je venais tout juste de quitter la faculté de théologie de l'Université catholique d'Angers, où mon professeur donc, de théologie professait que désormais il n'y aurait plus de concile, puisque le pape avait déclaré le concile Vatican, on ne disait pas Vatican, hein, puis c'était le Vatican tout court, avait défini que le pape était infaillible. Alors il n'y avait plus besoin de concile. Alors donc j'ai découvert que les théologiens n'étaient pas infaillibles. Et puis, alors bien sûr, les hommes qui ont fait le concile, hommes d'église, sont aussi des hommes. Alors nous avons connu des moments, des discussions, des tensions, et ainsi de suite. Jean XXIII est mort, donc après la première session. La grande question qui se posait, ça peut paraître étrange, mais enfin, c'est la loi de l'Église. Est-ce que le concile va continuer ? Et ça a donc été, on peut dire, un des enjeux du conclave, d'élire, selon ce que pensaient les cardinaux. Et donc, ils ont donc élu le pape Paul VI, donc Jean-Baptiste Montigny, archevêque de Milan, qui, dès son premier discours, a professé que sa grande œuvre, ce serait de mener le concile à bon terme.
Parmi les moments clés de ce concile, qu'est-ce qui vous a le plus marqué ?
Le moment qui m'a marqué le plus, c'est donc un matin, j'arrive à la secrétaire d'État, je vois le cardinal Léger, l'archevêque de Montréal, qui m'aborde, j'allais dire qui m'attaque, ayant en texte une pétition, je ne sais plus si c'était de 30 cardinaux, 100 archevêques, 300 évêques, « Beatissime Pater, très Saint-Père, instamment, plus instamment, très instamment, nous vous prions donc de promulguer le décret sur la liberté religieuse. » Alors Paul VI a eu la sagesse d'arrêter la discussion et de permettre ainsi au texte de mûrir pendant l'intercession pour aboutir donc à cette belle déclaration sur la liberté religieuse dont l'alors Karol Wojtyła, archevêque de Cracovie, déclarait que c'était le texte le plus important donc, du concile. Mais comme vous le savez, ces déclarations et cette maturation n'ont pas suffi. Et l'on peut dire que je crois que c'est un des points d'achoppement encore d'un certain nombre de ceux qui ont suivi Mgr Lefebvre alors, et qui ont cru, bien à tort, que c'était donc une sorte d'ouverture au libéralisme. Alors que le texte, moi je l'ai relu encore deux fois pour la réédition de mon livre là, sur le Concile Vatican II, à chaque page, on affirme que chacun a le devoir de chercher la vérité et de le suivre sa conscience en la matière, quoi qu'il en coûte. Et l'exemple le plus fameux, célèbre, c'est donc John Henry Newman que Benoît XVI a béatifié.
Le Concile a 50 ans. Est-ce que vous pensez qu'il peut encore apporter des réponses aux hommes d'aujourd'hui ?
Alors, je vous réponds avec clarté. Non seulement il peut, mais il est là pour ça. Et je termine mon livre donc en citant cette parole magnifique du pape Jean-Paul II, disant qu'à l'aube du nouveau millénaire, il était une boussole.
L'entretien que vous venez d'entendre était une rediffusion. C'est la fin de cette émission, mais je vous invite à nous retrouver sur internet radiovaticana.va ainsi que sur Facebook Radio Vatican en français. Merci de votre fidélité.